vous écoutez RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez, les 5h30 à Paris.
Vincent Dublange.
Et c'est Afrique Matin. On ouvre avec le journal, bien sûr, à la une. Le combat du peuple Ogiek au Kenya pour récupérer ses terres ancestrales spoliées par les colons, jamais rendues par l'État depuis l'indépendance. Malgré une décision de la Cour africaine de justice il y a 8 ans maintenant, des représentants communautaires sont donc revenus lui demander la même chose. Reportage à Bukavu, dans l'est de la RDC, où des associations lancent un grand programme de communication non violente, ou comment apprendre à se parler entre communautés pour éviter les conflits. Programme qui devrait ensuite être étendu au Nord Kivu et à l'Ituri. On est à Bangui également dans quelques minutes. On va tenter d'y voir clair. Y aura-t-il ou non des élections locales fin août? Rien n'est moins sûr. Les sports dans 10 minutes et le Niger qui bat le Gabon hier en amical 4-3. C'était au Maroc. On va entendre le défenseur gabonais Bruno Ekwelemanga. 8 ans après, rien n'a donc été fait. Malgré le jugement d'Arusha, Nairobi n'agit pas et le peuple Ogiek perd patience au Kenya. Les Ogiek, ce sont cette communauté qui vit dans la vallée du Rift. Historiquement, ils viennent de la forêt de Mao qui est située entre la capitale kenyane et Kisumu, donc plutôt dans l'ouest du Kenya en direction du lac Victoria. De cette forêt de Mao, les Ogiek ont été plusieurs fois expulsés. Et ils doivent récupérer leurs terres, dit la Cour africaine des droits humains et des peuples. Une décision qui date de 2017, pas appliquée donc. Gaël Alex, les Ogiek étaient de retour cette semaine devant la justice panafricaine.
La décision de la Cour d'Arusha implique notamment la restitution de terres aux Ogiek et une compensation financière d'environ 1 300 000 dollars pour les préjudices subis. Des mesures que le gouvernement kényan rechigne à mettre en place. Pire, selon Albert Baroumé, rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits des peuples autochtones, les autorités kényanes ont même recommencé à clôturer la forêt. Cette démarcation menace les droits de plus de 8 500 Ogiek, écrit-il dans un communiqué. La spoliation des Ogiek dure depuis la colonisation. Aujourd'hui, les autorités kényanes les accusent de participer à la déforestation en coupant du petit bois de chauffe. La forêt de Mao est cruciale pour l'économie de la région. Elle représente notamment un réservoir d'eau naturel pour les terres arables alentour. Le mois passé, lors de l'inauguration de l'aéroport de Narok, capitale du comté, le président William Ruto a remis un titre de propriété aux autorités locales, assurant mettre ainsi un terme au conflit autour de la forêt. La Cour africaine des droits de l'homme, quant à elle, s'est retirée pour délibérer. Dans un communiqué, la communauté Ogiek se dit optimiste. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Des droits humains bafoués. Et ce sont des rapporteurs de l'ONU qui le disent. Ils avertissent le Maroc vis-à-vis de leurs actions au Sahara occidental, que Rabat appelle les provinces du Sud ou le Sahara marocain. L'ONU considère le territoire comme non autonome et attend toujours un référendum d'autodétermination. Le Front Polisario lutte en ce sens, armes à la main. Mais dans les faits, le Maroc contrôle et administre une large partie du Sahara occidental. Dans le détail, ce rapport de l'ONU pointe des déplacements forcés de Sahraouis sur la côte atlantique, des maisons détruites, incendiées pour laisser place à des projets touristiques, énergétiques. Rabat dément et parle de politisation des instruments onusiens. Dernièrement, de plus en plus d'États se tournent plutôt vers le Maroc, reconnaissant sa souveraineté sur le Sahara occidental. Dernier exemple en date, le Ghana cette semaine.
Goma, 98 FM.
À l'est de la RDC et 75 prix Nobel qui appellent à un sursaut international pour stopper les souffrances. Tribune parue dans le quotidien français Le Monde, de l'auteur nigérian Wole Soyinka à David Macmillan, chimiste britannique, en passant par Denis Mukwege, prix Nobel de la paix congolais. Ils dénoncent tous, je cite, le silence mondial persistant sur les conflits dans l'Est. Détails sur l'appli RFI et donc sur le site de nos confrères du Monde. Sur l'appli RFI, vous lisez aussi le point sur les différents processus de discussion en cours concernant le conflit justement dans l'Est de la RDC. Il faut dire qu'il n'est pas simple de s'y retrouver. À Doha, les délégations des autorités congolaises et du M23 sont rentrées, chacune à la maison cette semaine, avec une proposition de la médiation qatarienne. Mais on est encore loin d'un accord, selon nos sources. Tandis que dans la négociation RDC-Rwanda, cette fois, rendez-vous est donné à Washington dans quelques jours pour de nouvelles discussions, mais à niveau technique pour le moment. Sachez aussi que la proposition de grand dialogue des églises catholiques et protestantes pourrait avoir lieu bientôt. En tout cas, les religieux devraient prochainement être reçus par le président Tshisekedi, nous dira Pauline Azidi dans le prochain journal Afrique dans une heure. Pour l'heure, direction Bukavu. Toujours dans l'est de la RDC, Bukavu contrôlé depuis la mi-février par l'AFC M23 appuyé par l'armée rwandaise. trois organisations de la société civile viennent d'y lancer une campagne de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale. Le but, la prévention des conflits dans la province du Sud Kivu, Amélie Tullet.
Les organisateurs ont rassemblé dans un hôtel du centre-ville les chefs de quartier ainsi que les leaders communautaires et politiques de Bukavu. Les trois organisations de la société civile à l'initiative de cette campagne de sensibilisation veulent organiser des groupes de parole à partir de lundi dans les différents secteurs de la ville. Pour Albert Migabo Niagaza, qui coordonne la synergie des chefs des quartiers de Bukavu, il y a urgence.
Je déplore qu'un bandit qui a été tué, malheureusement, après avoir brûlé ces derniers, la population en colère a consommé la viande de leurs frères, raison pour laquelle je pense que nous devons beaucoup, beaucoup encore parler de la cohésion sociale, de la paix dans nos entités, sinon tout peut être chambardé. C'est grave, raison pour laquelle il faudrait qu'on parle franchement de la cohésion sociale.
Bukavu accueille de nombreux déplacés qui ont fui les combats lors de l'avancée du M23 dans les différents villages du Nord et du Sud Kivu. Les trois ONG veulent prêcher la tolérance interethnique et la communication non violente. Claudine Biamungu Nandjouchi est la coordinatrice de Hope and Peace DRC.
Nous avons un programme d'éducation à la paix et à la cohésion sociale qui va durer 5 ans. Et nous voulons un changement pour que chaque communauté se sente à l'aise de vivre avec l'autre. La paix et la cohésion sociale, c'est un changement de comportement. C'est possible.
Après le Sud Kivu, cette campagne doit s'étendre à deux autres provinces, celle du Nord Kivu et de l'Ituri.
Radio France Internationale, 4h36 à Bangui. Les élections locales auront-elles enfin lieu cette année en Centrafrique? Il n'y en a pas eu depuis 1986 de crise en report. Elles sont attendues depuis des années, et ce malgré l'insistance des bailleurs de fonds du pays et des Nations Unies. Normalement, ce devrait être pour le 31 août prochain, mais rien n'est moins sûr. Décryptage RFI, François Mazet.
Selon le chronogramme des élections, la liste électorale définitive et le décret de convocation des électeurs auraient déjà dû être publiés. Ce n'est pas le cas, déplore le réseau Arc-en-Ciel, regroupant 15 des principales organisations de la société civile centrafricaine. Joseph Bindoumi est le chef de la mission d'observation électorale de cette plateforme.
Nous avons annoncé les élections locales depuis 4 ans. Et à chaque fois, nous avons mis ces élections locales-là de côté. Nous avons organisé le référendum, puis nous continuons de fermer les yeux de ce côté-là, alors que nommer les membres des communes par décret ne nous donne pas de signe d'un État qui avance vers un processus où la parole est au peuple. Il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté.
Le 17 mai, l'Assemblée a voté une dérogation au code électoral. Les autorités comptent impérativement organiser la présidentielle et les législatives en toute fin d'année. Alors les élections locales peuvent-elles être couplées à ces scrutins? Ce serait une grosse erreur, selon Joseph Bindoumi.
Non, ça ne peut pas marcher, parce que vous savez que dans ce pays qui déjà souffrait lorsqu'il n'y avait que deux élections à organiser à la fois, nous sommes certains que si on prenait le risque, nous aboutirions à des élections soit bâclées, soit dans un cafouillage qui ne nous ferait pas rendre crédibles les résultats qui sortiront des urnes.
Le réseau Arc-en-Ciel demande au gouvernement et à l'autorité nationale des élections de tout mettre en œuvre pour éviter un report. Ni l'un ni l'autre n'ont souhaité répondre vendredi à ces inquiétudes.
François Mazet. Du gaz lacrymogène, des journalistes brièvement interpellés. Il y avait de la tension à Lomé hier au Togo. Important dispositif de sécurité déployé lors de manifestations contre le régime. Nos confrères, notamment de TV5, mais pas que, ont été contraints d'effacer les images qu'ils avaient tournées, ces rassemblements rares ces dernières années. Au Togo, dénonce des arrestations ciblées ces derniers temps, la hausse des prix de l'électricité, la réforme constitutionnelle aussi qui renforce le pouvoir de Fornia Singbe, qui en a fait le chef du gouvernement sans limitation du nombre de mandats. Désormais, il est 6h39 tout pile à Mamoudzou. Le projet de loi pour la refondation de l'archipel de Mayotte porte atteinte à certains droits parmi les plus fondamentaux. C'est ce que dit à Paris la défenseure française des droits, l'institution qui préconise d'abandonner ou de réviser certaines dispositions du texte voté par le Sénat français il y a quelques semaines. L'Assemblée nationale doit s'en saisir normalement ces jours-ci. Les sports dans cette édition, avec des matchs amicaux en football et qui concernent le continent africain. Il y en avait plusieurs qui se jouaient hier, et notamment le Niger face au Gabon. Ça se jouait au Maroc. Le Niger a gagné 4-3. Le vice-capitaine des Panthères du Gabon, Bruno Ekwelemanga, à l'issue de la rencontre, était forcément déçu. Mais il rappelle, le défenseur, que c'est son équipe qui est jeune et donc toujours en construction.
Ben, on est un peu déçu. Je pense qu'on a très mal commencé le match. Et après, en face, il y avait une bonne équipe du Niger aussi, il faut le souligner. Après, derrière, on n'a pas fait ce qu'il faut, ce qu'il fallait. Il y avait énormément d'espace. On leur a donné beaucoup de ballons. On n'était pas agressif aussi sur eux. On ne gagnait pas de duel, surtout en première mi-temps. Et ça nous a coûté les buts. Ouais. On continue de travailler. On a une équipe jeune. Il y a beaucoup de nouveaux aussi. Il faut le dire, il y a beaucoup de jeunes. Donc, on essaye de travailler avec. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais bon, et après, le coach essaye de faire avec ceux qui sont là. Il y a de la qualité, mais il faut du temps, il faut de l'apprentissage. Et je pense qu'on va y arriver.
Et dans les autres résultats, hier, le Cameroun a battu l'Ouganda 3-0. L'Afrique du Sud a fait match nul contre la Tanzanie 0-0. On va terminer à La Réunion avec la 22e édition du festival Sakifo qui s'est ouvert hier soir. Le programme fait la part belle aux têtes d'affiche, mais aussi aux talents émergents. Parmi eux, Joker Cartel, figure montante du rap de la République de Maurice, qu'a rencontré José Marinho.
Joker Cartel est un groupe mauricien né en 2019. Il fait le pont entre rap et dancehall.
On a mis sur TikTok des petites vidéos juste pour s'amuser et tout.
Au micro, c'est Lil Flex, le MC de cette bande, si jeune, tous dans la vingtaine.
Mais après, ça a pris de l'ampleur un peu.
4 ans plus tard, il balance Ratatata sur les réseaux et là, ça explose, plus de 8 millions de vues.
C'est un truc de fou pour nous.
Dans Ratatata, fini les clichés des cartes postales, il raconte une autre île Maurice, plus rugueuse.
Il y a problème de drogue, la pauvreté aussi.
Propulsé dans la cour des grands, l'île Flex y prend goût. Le rap devient plus qu'un exutoire, une vraie vocation.
Maintenant, c'est notre métier.
Et voilà l'île Flex en tête d'affiche du Sakifo. Prochaine étape, il la voit déjà, les grandes scènes parisiennes, rien que ça.
Joker Cartel, un jour en BSI.
Pas de doute, les gars de Joker Cartel ont de l'ambition. Du gangsta rap sous les palmiers, version mauricienne et les rêves qui vont avec, grand. Très grand. José Marinho, La Réunion, RFI.
Et à Saint-Denis de La Réunion, comme à Port-Louis sur l'île Maurice, il est 6h42, 7h42 tout pile.
Afrique Matin sur RFI.
À suivre dans les minutes qui viennent, la une de Jeune Afrique sur les stratégies des groupes djihadistes au Sahel. Rencontre avec le réalisateur tchadien Aaron Padake Zegoubé, figure du nouveau cinéma africain qui signe son premier long métrage de fiction. Et puis on visitera l'exposition sur la peintre italienne du XVIIe siècle, Artemisia Gentileschi, au parcours incroyable et qui n'y allait pas, vous l'entendrez, avec le dos du pinceau. C'est l'une des recommandations du sommet sur les forêts. Il y a 2 ans à Libreville, cartographier à l'arbre près les forêts équatoriales dans le monde, Afrique, Asie, Amérique du Sud, et voir comment et où elles stockent le plus de carbone. Il s'agit aussi de recenser les plantes, car on en connaît finalement encore peu vu l'immensité des lieux. Et cela passe notamment par le Gabon, hôte donc, il y a 2 ans, du One Forest Summit. Yves-Laurent Goma a suivi il y a quelques jours des étudiants en formation immersion.
Arboretum de Sibong, une forêt située dans le nord de Libreville. Le botaniste Daniel Barthélémy et ses étudiants sont lancés à la recherche des espèces à documenter après des cours théoriques dans une salle climatisée. Brusquement, le chercheur français basé à Montpellier s'arrête devant une plante.
Alors là, c'est intéressant parce que c'est une forbiacée qu'on a vue ce matin avec tous les gens de la formation. On ne sait pas exactement quelle espèce c'est, mais on a une idée du genre parce qu'on a fini par trouver les fleurs, on a trouvé les fruits. Donc ça nous indique déjà quel genre peut appartenir cette espèce.
Daniel Barthélémy parcourt les forêts du bassin du Congo depuis 2023 après sa participation à Libreville au One Forest Summit, un sommet sur les forêts tropicales dont les très nombreuses espèces sont encore très mal connues par rapport aux forêts européennes.
Il y a beaucoup d'espèces et finalement peu de monde en comparaison qui les étudie. Et donc on connaît les espèces bien sûr, mais la quantité d'espèces qui doit être documentée, prise en photo, etc. est considérable.
À chaque étape, les chercheurs prennent des photos qui vont enrichir l'application PlanteNet créée pour documenter les espèces végétales des forêts tropicales. Dadingeba Ikapi, doctorant à l'Université de Sciences et Techniques de Masuku, fait partie de l'expédition.
On est en train d'enrichir la base de données pour nous permettre de collecter plus d'images et pour pouvoir actualiser au fur et à mesure dans le temps. Lorsque la plante elle est bien filmée sur le terrain, elle nous permet tout de suite de pouvoir l'identifier à partir de l'application PlanteNet.
PlanteNet rêve de devenir l'ancien l'encyclopédie des plantes des forêts tropicales. Il est fondé sur le principe de partage et de gratuité, explique le docteur Myriel Simino-Troissard de l'IRD de Montpellier.
La licence de partage des photos d'implants, c'est une licence libre. Ça veut dire que toutes les photos que vous partagez, vous les partagez librement. Mais chaque fois que les gens utiliseront les photos que vous avez faites, on saura qu'elles sont de vous parce qu'il y aura toujours votre nom en dessous des photos.
Loin d'un simple stockage, les photos fournies par les chercheurs doivent participer, grâce à l'intelligence artificielle, à mieux protéger les forêts, étudier leur capacité de stockage du carbone, mais aussi à quantifier les crédits carbone. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Merci Yves-Laurent, votre reportage à retrouver sur notre appli de podcast RFI Pure Radio.
RFI, toute l'actualité.
Vincent Dublange.
Et l'actualité de ce samedi 7 juin, c'est la défense civile de la bande de Gaza qui annonce la mort de 38 personnes au moins dans des frappes israéliennes sur les dernières 24 heures. En France, le parquet national antiterroriste ouvre deux informations judiciaires et nomme donc des juges pour enquêter sur des complicités présumées de génocide. Enquête ouverte contre des ressortissants franco-israéliens soupçonnés d'avoir volontairement bloqué l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza entre les mois de janvier et de mai 2024. Au Mali, cet officiel, le groupe Wagner, annonce son départ et passe le relais à Africa Corps, autre groupe paramilitaire russe, lui plutôt contrôlé par le ministère russe de la Défense. Et puis un mot de sport, le tournoi féminin de Roland-Garros touche à sa fin ce samedi. La numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, affronte la numéro 2 mondiale, l'américaine Coco Gauff. Début de la finale à 13h TU. Et il est 3h46 en temps universel sur RFI. La une de Jeune Afrique dans le bon ordre. Au Sahel ce samedi, on en parle sur RFI souvent, il y a une recrudescence ces derniers temps des attaques djihadistes. Le directeur de la rédaction de Jeune Afrique répond à Paul Lonsin-Spinelli.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Paul.
Directeur de la rédaction de JA, vous consacrez donc cette semaine un dossier à la multiplication des attaques djihadistes au Sahel et vous expliquez qu'au Niger, au Burkina Faso et au Mali, les groupes armés emploient de plus en plus une stratégie pour étouffer les villes.
Alors, on assiste effectivement à une situation d'expansion continue de ces groupes dans les trois pays de l'AES, avec depuis une dizaine de mois une pression accrue sur les centres urbains. Il y a eu en septembre dernier, vous vous souvenez, l'attaque spectaculaire d'une caserne de gendarmerie d'un aéroport militaire à Bamako. Tout récemment, le 2 juin, c'est un camp de l'armée malienne à Tombouctou, ainsi que l'aéroport qui ont fait l'objet de raids coordonnés, suivis deux jours plus tard par un attentat d'explosifs à la périphérie de Bamako. La ville de Sikasso est sous couvre-feu depuis le 5 juin. À Kaï, non loin de la frontière sénégalaise, c'est une entreprise chinoise qui a été ciblée le 24 mai. La localité de Djibo, dans le nord du Burkina, qui compte aujourd'hui à peu près 200 000 habitants, elle a été occupée pendant une journée entière par le JNIM, c'était il y a un mois. Donc une pression urbaine qui s'accompagne d'une stratégie d'encerclement à distance des capitales avec la multiplication d'embuscades le long des axes stratégiques. Bon, certes, la capacité de ces groupes terroristes à tenir des villes au-delà de quelques heures, elle reste très limitée, mais elle accompagne, Paul, l'omniprésence diffuse de ces groupes djihadistes en zone rurale, leur expansion vers les pays voisins, ainsi que la montée en puissance de leur armement, avec notamment l'usage de drones et tout récemment de drones kamikazes issus du marché noir libyen.
Et ces groupes terroristes, François, transforment aussi leurs sources de financement.
Alors, le financement des groupes terroristes a longtemps reposé sur deux piliers, comme vous le savez, les rançons, d'abord issues des prises d'otages de ressortissants occidentaux. Elles ont rapporté à peu près 200 millions d'euros en 20 ans. Et la contrebande de cigarettes et de drogue. Aujourd'hui, ces deux sources sont quelque peu taries, faute de cibles lucratives pour les otages. Et en ce qui concerne le trafic, depuis la quasi-disparition de la composante maghrébine, en particulier algérienne, au sein des groupes terroristes, les groupes djihadistes ont donc dû réorienter leur financement, d'abord en détournant systématiquement la zakat, l'impôt religieux, en une sorte de machine fiscale organisée dans les zones qu'ils contrôlent. C'est un impôt qui est payable en argent, en bétail, en récolte, en taxes diverses, s'apparentant à du racket. Et autre source de financement, l'orpaillage. Vous savez, dans la zone aurifère de Nabao, à la frontière du Burkina, du Mali et du Niger, ce sont pas moins de 2000 orpailleurs qui travaillent ainsi pour le JNIM, Paul.
Et afin de convaincre au sein des populations de recruter, les djihadistes s'infiltrent via des relais locaux, en étant actifs notamment auprès de prêcheurs salafistes au Mali, mais aussi au Sénégal.
Oui, dans les régions de Kaï au Mali, mais aussi de Matam et de Tambacounda au Sénégal, on a observé l'apparition de prêcheurs salafistes proches du JNIM qui exploitent des facteurs sociaux comme le système des castes ou les séquelles de l'esclavage par ascendance pour convertir des populations marginalisées à un islam qui est présenté un petit peu comme une sorte de théologie de la libération. Alors on sait par ailleurs que le JNIM a infiltré le commerce transfrontalier entre le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. C'est une situation sur laquelle alerté tout récemment à propos du Sénégal le général Maïssa Selendiaï, qui est l'ancien aide-de-camp de Macky Sall et qui mettait en garde contre le risque d'affrontement à caractère ethnico-religieux comme observé ailleurs au Sahel avec ces mots, Paul, l'erreur serait de croire que cela n'arrive qu'aux autres.
Merci beaucoup François Soudan.
Merci Paul.
Merci Paul, on vous retrouve dans deux heures pour la revue de presse internationale. Pour leur place à notre grand invité Afrique du jour, le réalisateur tchadien Aaron Padaké Zegoubé, formé au 7e art en Algérie et au Cameroun. Il fait partie de cette nouvelle génération des cinéastes africains. À son actif, deux courts-métrages et un documentaire sur les traces de Toumaï, prix du documentaire au camp international des cinéastes d'Afrique à Ouidah. Au Bénin, il vient nous parler ce matin de Warassa, c'est son premier long métrage de fiction, il le fait au micro RFI Douda Ibrahim.
Aaron Padaké Zegoubé, bonjour.
Bonjour.
Votre film Warassa sort aujourd'hui à Paris, c'est un premier long métrage de fiction et vous avez choisi de traiter dans un drame social les conditions d'une jeune femme dans le Tchad d'aujourd'hui face à la question de l'héritage.
Je suis content d'être avec vous pour vous parler de Warassa, qui veut dire l'héritage en arabe tchadien. Très souvent, j'ai appris à venir au village pour apprendre un peu de mes origines. Et je me suis rendu compte que quand on est orphelin, il y a la question d'héritage du côté patriarcal. Et donc, c'est quelque chose qui m'a marqué du point de vue où vous avez perdu votre père ou votre oncle, mais le jour des retraits des deuils, au niveau, il y a des cérémonies, des rituels, et c'est vous qui subissez, en fait. J'étais à la recherche de cette compassion, de cette tolérance vis-à-vis de quelqu'un qui venait de perdre un de ses proches. Ça m'a interpellé et j'ai pensé aussi bien, encore plus aborder cette question qui rejoint vraiment ce thème d'héritage. On est dans une société où l'héritage n'appartient pas à la femme.
Donc, vous dénoncez ce côté de la société tchadienne à travers le traitement que vous faites du film.
Oui, bien sûr. On dénonce de cette façon et le film, c'est pour apporter des éléments. Puis ces éléments-là vont être utiles dans la société dans laquelle nous vivons. Et c'est de cette manière-là que j'avais vu les choses. C'est-à-dire qu'une jeune femme qui affronte son oncle parce que son père lui a légué, selon le testament qui a été prouvé, que c'est elle qui devait être la détentaire de cet héritage-là. Donc c'est l'oncle qui va utiliser la société, l'argument de la société pour dire qu'il n'accepte pas. Et nous avons deux mondes qui s'affrontent, la modernité et la tradition qui vont s'affronter.
Le film a participé au Festival panafricain de Ouagadougou.
Ouais.
Il va participer ce mois-ci au Festival de Khouribka au Maroc.
Ouais, ouais.
Parlons un peu du processus d'écriture. Comment ouais. ça s'est développé, le scénario?
La question d'écriture, c'est fondamental dans le processus de la fabrication d'un projet. Et c'est pour ça que nous avons créé des résidences un peu partout en Afrique centrale. Et j'ai eu la chance de participer à des résidences d'écriture. C'est-à-dire qu'on a un projet, mais on ne s'enferme pas dans la chambre pour finaliser l'écriture. C'est-à-dire qu'il faut sortir, partager ces projets-là pour voir si ça intéresse les autres. Et j'ai fait un clin d'œil à Yaoundé Film Lab, qui a été créé à l'époque par un ami à moi, avant que lui, il vienne nous aider aussi à créer les ateliers de Toumaï au Tchad. Donc Warassa avait fait Yaoundé Film Lab. Et c'est comme ça que après avoir recueilli des informations, des éléments, j'ai accepté de travailler avec Léandre Alain Becker, qui est un scénariste congolais.
Warassa parle aussi du président tchadien mort dans les combats. Il y a des scènes dans les scénarios qui ont été rajoutés en fonction de ce grand
événement qui a secoué le pays. Le cinéma, quand on est cinéaste, c'est aussi d'être témoin des actualités. L'écriture d'abord, puis le tournage s'est passé pendant que le Tchad était en pleine transition politique, donc avec effectivement le décès tragique du maréchal Idriss Déby Itno pendant les affrontements au Tchad en 2021, en avril 2021. Donc c'est comme ça que nous sommes dit, c'est ça aussi l'héritage du Tchad. On venait de perdre un chef de l'État, moi j'étais parti pour faire mon master de cinéma au Cameroun. Donc ce n'était plus ce même Tchad-là, parce que c'était un Tchad qui était chapeauté par quelqu'un qui avait une vision. Maintenant, je me suis posé la question, quand je repars dans un nouveau Tchad, voilà, qui va être le prochain président? La question d'héritage, elle était là, c'est sur la table. Donc, il fallait qu'on puisse l'intégrer un peu pour essayer d'être en conformité avec l'actualité. C'est ça aussi, être un cinéaste.
Pour vous, l'art, le cinéma, se croise forcément avec la politique?
Absolument. Je pense que ça va de pair. Et il est très normal pour nous vraiment de passer par là, pour pouvoir être en actualité.
On va parler donc des ateliers de Toumaï.
Ouais.
Ça fait pratiquement 4 ans que ces ateliers existent à N'Djamena.
Ouais. Du côté du Sahel, nous avons un problème d'instabilité. Et c'est ça qui nous amène, nous, en tant que cinéastes, à apporter notre contribution de cette façon-là. Et c'est comme ça que nous, on a créé les ateliers de Toumaï pour dire aux gens que ne partez pas. Nous aussi, à partir du Sahel, il y a la vie à partir du Tchad. Et il faut créer un cadre pour pouvoir contenir cette jeunesse qui brille d'envie de faire du cinéma, qui brille d'envie encore de s'épanouir dans d'autres métiers de culture. Et c'est comme ça que nous avons créé les ateliers de Toumaï pour apporter des éléments à ces problèmes-là. Donc, nous mettons dans le catalogue 10 projets de la sous-région afin de rendre ces projets-là compétitifs sur la scène cinématographique.
Aaron Padaké Zegoubé, merci.
Mais je vous remercie
beaucoup. Et le film Warassa est diffusé ce soir, si vous êtes à Paris, au cinéma La Grande Action, 19h30. On va rester dans la capitale française pour terminer. RFI Culture, direction le musée Jacquemart André à Paris. Donc exposition consacrée en ce moment à la peintre Artemisia Gentileschi, une Italienne qui a vécu au XVIIe siècle et qui a un parcours peu commun. Reportage Isabelle Chenu.
Des romans, des films, des bandes dessinées célèbrent aujourd'hui la légende d'Artemisia Gentileschi. L'œuvre de cette peintre italienne du début du XVIIe siècle n'en finit pas d'être redécouverte, complétée par de nouveaux documents, de nouveaux tableaux. Des recherches récentes dessinent plus précisément sa forte personnalité, sa peinture virtuose, sensuelle et éclectique. Artemisia Gentileschi a grandi dans l'atelier de son père Orazio à Rome. C'est là qu'elle s'est formée, c'est là aussi qu'elle sera violée à 16 ans par un des assistants. S'en suivra un procès intenté par son père contre l'agresseur, dont les minutes sont restées célèbres. Pierre Curie est commissaire de l'exposition du musée Jacquemart-André.
Agostino Tassi est condamné, mais à peine, il doit s'exiler, mais il ne s'exile pas, enfin, et c'est Artemisia qui quittera Rome, parce qu'évidemment, après ce procès, elle est une personne sociale totalement détruite, violée, non mariée, sans protection, sans métier. C'est son père qui a arrangé un mariage, elle se sauve à Florence, où là, elle va développer une carrière très très différente, déployer ses ailes comme artiste, adopter un style qui lui est personnel, et qui va varier tout au long de sa carrière.
Artemisia Gentileschi est influencée par le Caravage, maître du clair-obscur au réalisme cru. Comme lui, elle attaque la toile sans dessin préparatoire. À Florence, elle fréquente la cour des Médicis, apprend la musique, la poésie, participe à plusieurs grandes commandes de peinture, vit de son art et possède son propre atelier. Elle n'hésite pas à représenter l'action violente, sujet à la mode, comme dans le tableau Judith et sa servante, portant nonchalamment la tête décapitée du général Holoferne dans un panier.
C'est pas une artiste féminine, vous voyez. C'est pas une femme qui fait dans la dentelle. C'est un grand peintre qui se met artistiquement absolument au niveau des hommes de son temps et qui parle les mêmes choses, je dirais, avec la même puissance.
Artemisia Gentileschi est aussi une rare femme peintre de son époque à représenter des nus féminins, une caractéristique de son travail.
Elle peint cet autoportrait dans la Casa Buonarroti où elle se représente entièrement nue et nous avons également une très belle Cléopâtre. Ce sont à la fois toujours des espèces d'autoportraits corporels, très très sensuels, avec des formes rondes, et elle y place son visage.
De Rome à Florence, en passant par Londres ou Naples, l'artiste laisse une œuvre résiliente, menée sur près de 40 ans, une durée tout à fait exceptionnelle pour l'époque.
Merci Isabelle Chenu du service culture d'RFI. Dans une demi-heure, prochaine édition africaine et dans 30 secondes, le journal international sur la radio du monde.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Les musulmans ont célébré l'Aïd el-Kébir. C'est l'une des fêtes les plus importantes en islam qui commémore le sacrifice d'Abraham. En France, nous sommes allés à la rencontre de croyants qui s'apprêtaient à célébrer ce moment dans un contexte de forte tension où les musulmans se sentent stigmatisés du fait de leur religion.
Religion du monde avec Véronique Guémard.
Dimanche, à partir de 10h10 TU.
RFI.